Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal qui est à Jérusalem à mes côtés. Bonjour Clara.
Effectivement, bonjour Guillaume et bonjour à tous. L'État d'Israël a 70 ans, anniversaire en grande pompe cette semaine. 70 heures de concert, des drapeaux partout dans le pays jusqu'à Jérusalem-Ouest. Des satisfecits, le pays allie croissante et plein emploi avec une facilité déconcertante. Nous reviendrons sur les raisons de cette réussite. Mais Israël, c'est aussi une idéologie politique complexe, une diplomatie souvent décriée et un homme, Benjamin Netanyahou, qui plie sans rompre à la tête du pays depuis 9 ans maintenant. En 70 ans, enfin, une chose n'a pas beaucoup changé. Les relations israélo-palestiniennes rencontrent de l'autre côté de la frontière à suivre. L'actualité depuis Paris, c'est avec vous, Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour, Clara.
Anne, quels sont les titres de ce vendredi matin ?
L'évacuation de la faculté de Tolbiac, la centaine d'étudiants présents sur le site a quitté les lieux au petit matin, opération lancée par la préfecture de police qui a dépêché sur place une centaine de CRS. Une seule interpellation pour outrage et rébellion, mais les étudiants comptent revenir manifester dès ce matin. On fera le point avec notre envoyé spécial Ariane Grissel. Et puis, c'est un nouveau chantier qui s'ouvre pour le gouvernement et pas des moindres. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présente en Conseil des ministres son projet de réforme de la justice. Nous verrons ce qui bloque avec les professionnels du droit, avec Florence Turm.
Anne Fauquemberg, nous vous retrouvons dans 10 minutes.
Le journal de France Culture, en direct de Jérusalem.
Certains diront que c'est un triomphe économique et technologique. L'État d'Israël l'est indéniablement. 70 ans tout juste après sa création, il affiche une croissance insolente de plus de 3%. Le taux de chômage est historiquement bas, à 3,7%. Et les conditions de vie, bien qu'inégalitaires, n'ont rien à envier à la France, par exemple. La nation de l'innovation, voici d'ailleurs le thème affiché du 70e anniversaire de l'État d'Israël que nous décryptons ce matin sur France Culture. Étienne Monin, notre correspondant dans la région et de nouveau autour de la table. Bonjour Étienne.
Bonjour Clara.
Étienne, dans ce paysage, la haute technologie israélienne continue d'être un secteur en pointe.
Oui, les investissements sont massifs, plus de 5 milliards de dollars l'an passé, notamment dans le domaine de la cybersécurité qui est en plein boom. La protection des données est quasiment une culture en Israël.
Et l'armée y investit sous différentes formes. Exemple, dans la capitale israélienne, Étienne, vous avez visité les locaux d'une jeune entreprise.
Cyber Reason est une start-up en pointe à Tel Aviv. Dans les locaux, il y a un bar, un billard en dessous de la salle de réunion baptisée Mauvais Lapin.
Mauvais Lapin, c'est le nom d'un virus. Toutes les salles de conférence ici ont le nom d'un virus célèbre.
Cette start-up travaille dans la cybersécurité. Elle a été montée par Yossi Nahar et deux associés. C'était il y a 4 ans. Depuis, les effectifs ont été multipliés par 30. Le dernier financement a atteint 100 millions de dollars. Yossi Nahar et d'autres parlent d'un écosystème en Israël.
Il y a une grande présence d'investisseurs ici, qu'ils soient locaux ou internationaux. Et je pense qu'il y a un désir naturel de réussite chez les Israéliens et un appétit pour la haute technologie.
En Israël, le soutien est structurel. L'État investit dans la recherche et le développement. Des universités sont tournées sur la formation et l'armée a une unité spécialisée. Cela explique le boom dans le domaine de la cybersécurité. Les deux associés de Yossi Nahar viennent de l'unité militaire 8200.
L'armée a un système de recrutement très spécialisé. Ça leur permet de prendre les meilleurs dans cette unité technologique. Ils leur donnent une formation et ça permet à ces recrues d'agir dans des domaines auxquels ils n'auraient pas accès avant des années sinon.
Israël est également positionné sur des domaines porteurs, explique Fiona Darmon. Elle fait partie d'un important fonds d'investissement à Jérusalem, le JVC Investment Partners.
Cybersécurité, big data, intelligence artificielle, ça va rester toujours un des grands technologies qui vont sortir d'Israël.
Mais en Israël, les startups se vendent toujours très tôt et l'informaticien devient une denrée rare et précieuse.
Un savoir-faire qui attire la Silicon Valley notamment, qui fête évidemment le bonheur du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au pouvoir depuis 9 ans, il préfère mettre en avant, et c'est plutôt logique, cette réussite économique plutôt qu'un fragile projet politique, d'autant plus fragile, Étienne, que l'ère Netanyahou pourrait prendre fin.
Oui, le premier ministre est aujourd'hui sérieusement menacé par les affaires judiciaires. La police a proposé sa mise en accusation dans deux dossiers. Le procureur doit prendre une décision dans les mois qui viennent. Le sort de sa coalition est lié à la suite judiciaire. Les deux affaires sont à la fois graves et limitées. Elles parlent de la personnalité intime du Premier ministre, soupçonné d'avoir mélangé fonction publique et vie privée pour satisfaire son goût du luxe et pour polir son image dans les médias. Benjamin Netanyahou est au pouvoir depuis 9 ans consécutifs. En Israël, sa stature politique dépasse celle de tous ses concurrents. Cette histoire prouve qu'il est son seul adversaire. Et encore, dans les sondages, on voit qu'en cas d'élection anticipée, son parti, le Likoud, arriverait largement en tête.
Car Étienne, il faut aussi le rappeler, sur le plan international, Benjamin Netanyahou revendique un succès sans précédent, hyperactif sur la scène diplomatique. Il a créé des ponts avec des pays en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. On l'a vu se rapprocher aussi de l'Arabie Saoudite. Comme pour compenser, pour corriger les critiques internationales, critiques liées à l'occupation du territoire palestinien bien souvent, ou au statut de Jérusalem, où nous nous trouvons ce matin, sur la question des ambassades qui seront transférées dans la ville, ambassade américaine d'abord. Israël réussit à convaincre. Hier soir encore, la Roumanie annonçait le transfert de la sienne, de son ambassade, de Tel Aviv à Jérusalem.
Alors c'est un mouvement qui est encore limité, mais clairement, Israël enregistre des succès sur le plan diplomatique, estime Ofer Salzberg. Il est analyste pour l'International Crisis Group à Jérusalem.
Depuis que Netanyahou est au pouvoir, Israël en effet a plus de relations avec des pays non occidentaux, surtout en Afrique et en Asie centrale. Ça, c'est lié d'un côté aux causes économiques, c'est des économies en croissance et Israël cherche des marchés. L'autre raison pour laquelle vraiment Netanyahou a une responsabilité est qu'il a cherché comment est-ce qu'il peut gagner des votes de ces pays dans les Nations Unies parce qu'il voit une impasse par rapport aux pays européens. Et là, il a créé, si vous voulez, des relations plus artificielles, vraiment des échanges initiés par le gouvernement et pas par les marchés. Et il a renforcé certaines relations avec de désavantages parfois. Donc il fallait vendre des armements aux pays où il y a des violations des droits de l'homme, parfois d'autres pratiques. Mais effectivement, on voit un changement dans le vote aux Nations Unies, où il y a de plus en plus de pays qui ne votent pas contre Israël ou qui votent même avec Israël.
Voilà pour la diplomatie. Alors sur le terrain international maintenant, sur le terrain, Israël suit évidemment de très près ce qui se passe en Syrie en ce moment et notamment les faits et gestes de l'Iran avec lequel les tensions sont grandissantes. Israël, Étienne Monin, prend d'ailleurs très au sérieux le risque d'une action militaire iranienne.
Parce que les deux pays se sont récemment directement affrontés. La confrontation était dans l'air depuis des mois. C'est la suite de la guerre en Syrie. L'Iran est soupçonné de prendre pied dans le territoire. Israël en a fait ce qu'on appelle ici une ligne rouge, elle refuse l'installation de bases militaires à quelques kilomètres de sa frontière.
Il est 8h08 sur France Culture, ce sont les matins en direct de Jérusalem, 9h08 à Jérusalem. Nous sommes dans le bureau de Radio France qui surplombe aujourd'hui les collines de Jérusalem et nous poursuivons avec le journal de Clara Lecoq-Réal.
On vient d'évoquer l'Iran et Israël, la Palestine à l'est et au sud également. Maintenant c'est l'autre, sinon menace, l'autre point de tension. Là encore l'actualité sursaute en ce 70e anniversaire. Après une période relativement calme, la bande de Gaza menace de s'embraser, Étienne Monin.
Et c'est l'histoire d'une convergence, celle d'une population étranglée par des conditions de vie en constante dégradation et celle d'un mouvement islamique, le Hamas, arrivé au bout d'une logique politique. Un levier commun a été trouvé, un rassemblement sans armes en 5 points de la bande de Gaza chaque vendredi en direction de la frontière. Et c'est un élément d'instabilité supplémentaire avant le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, programmée dans moins d'un mois.
La colère en 70 ans ne s'est donc pas apaisée. Vous l'avez constaté, Étienne, le droit au retour revendiqué par les réfugiés palestiniens contraints de quitter leur terre en 48. Ce droit au retour se transmet de génération en génération. Reportage à l'appui.
Avec ses quelques casseroles et ses marmites, dans son camp de réfugiés, Islam Aboussrour a transformé sa cuisine en entreprise. Cette mère de famille est un modèle. Elle propose des cours de cuisine aux étrangers. Ça fonctionne et ça crée, entre autres, une richesse économique.
On ne fait pas cela pour l'économie. C'est aussi pour aider les mères qui ont des enfants handicapés. Parce qu'ici, il n'y a personne, pas d'organisation pour aider ces enfants.
Le camp d'Aïda à Bethléem est grand comme un quartier, serré comme un bidonville, habité par une population qui vit à crédit, regrette Fatiyeh Massed, une commerçante qui agite une demi-douzaine de carnets pour les dettes.
Mais parce que ici, les gens n'ont pas d'argent.
Dans le camp d'Aïda, plus qu'un droit, le retour est une culture qui se transmet. Islam Abousrour n'a jamais vu le village de ses parents aujourd'hui en Israël. Elle se considère comme réfugiée, identité qui passe de génération en génération.
On apprend à nos enfants que ici, ce n'est pas notre terre, qu'on a une terre. Et si Dieu le veut, petit à petit, ils vont changer les choses. Mais il nous faut de la patience. On fait passer tout cela à nos enfants.
Dans les rues du camp, Anas Abousrour, 29 ans, joue les guides pour les étrangers. Pour lui, le droit au retour n'est pas à négocier. Il ne voit pas d'autre solution pour briser le ghetto et surtout pas, dit-il, une solution négociée avec compensation.
En tant que réfugié, ce que je veux, c'est ma terre, mon état, mon pays. Je m'en fiche de l'argent. À quoi me servirait l'argent si je perds ma dignité? C'est ma dignité. Vous savez, la terre pour les Arabes, ma terre, c'est l'équivalent de l'honneur. Si vous perdez votre terre, vous perdez votre honneur.
Cette défense acharnée du droit au retour semble profonde et sincère. Les plus jeunes sont la quatrième génération de réfugiés.
Étienne Monin pour le reportage et les analyses 70 ans après la création de l'État d'Israël. Ce matin à France Culture, nous avons décidé d'être à Jérusalem, symbole de ces tensions permanentes, de cette complexité où chrétiens, arméniens, juifs et musulmans cohabitent. Et à la rédaction de France Culture, à la Maison de la Radio à Paris aussi, on travaille sur le sujet. Nous rejoignons Nadine Epstein. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Pour le magazine de la rédaction diffusé ce soir à partir de 17h, vous avez, Nadine, déambulé dans Jérusalem, que chacun s'approprie comme il le souhaite.
Jérusalem, en effet, qui cristallise passion, opinion et religion. Et d'abord, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mot usuel pour, comme la plupart des villes, pour désigner la population qui vit là-bas. On dit les habitants de Jérusalem. Israël a fait de Jérusalem sa capitale, y a installé son parlement, ses institutions, la maison du Premier ministre et déploie son drapeau bleu et blanc, frappé d'une étoile de David partout sur les toits des bâtiments, y compris dans les quartiers palestiniens. Mais aux yeux du monde entier, Jérusalem ne peut pas être la seule capitale d'Israël. Elle doit aussi être celle de la Palestine. Et donc, à Jérusalem, il n'y a aucune ambassade étrangère, seulement des consulats. À noter au passage, si je peux me permettre d'ouvrir une parenthèse, l'inflation de représentation consulaire des pays européens, qui sont, je crois, 26 ou 27. Pour la France, le consul général que nous entendrons dans le magazine de ce soir a la mission d'un ambassadeur auprès de l'autorité palestinienne. Il a aussi une mission religieuse. Historiquement, depuis le XVIe siècle, la France est protectrice des lieux saints et des chrétiens catholiques d'origine française en Terre Sainte. Le reportage nous emmènera à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui fête ses 100 ans, une institution classée dans les 100 meilleurs établissements universitaires du monde. Et là, nous entendrons les étudiants et les professeurs nous raconter ce haut lieu de connaissances, d'histoire et d'architecture, un mini Jérusalem, cosmopolite, multiconfessionnel, arc-en-ciel, instruit, dans lequel les Palestiniens y sentent des discriminations, certes moins fortes que dans la ville, mais parfois difficiles à accepter. Enfin, nous verrons que politique, religion, identité et vie quotidienne s'imbriquent à Jérusalem, où ses habitantes et ses habitants défendent chacun sa Jérusalem.
Nadine Epstein, à chacun sa Jérusalem. Vous l'avez donc compris. Nous retrouvons votre reportage pour le magazine de la rédaction réalisé avec Annie Brault. C'est à partir de 17h ce vendredi. Et l'on reste à Paris dans le studio de France Culture quelques instants avec Anne Fauquemberg. Il est 8h13 à Paris, 9h13 à Jérusalem. Anne, l'information de la nuit, c'est l'évacuation de l'université de Tolbiac.
Oui, Clara, la fac était le lieu emblématique de la mobilisation contre la réforme de l'accès aux universités. Eh bien, le blocage est désormais levé. Partout, l'état de droit sera rétabli. Satisfait-il du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur Twitter. L'intervention était réclamée depuis le 9 avril par Georges Haddad, le président de l'université. Université inquiet après la découverte de cocktails Molotov sur le site. Le syndicat de droite Uni avait aussi déposé plusieurs recours en justice sans succès. La préfecture de police a donc tranché. L'opération a été lancée vers 5h du matin par au moins une centaine de CRS. Bonjour Ariane Grissel, opération qui n'a pas traîné en longueur et qui a duré à peine 2 heures.
Oui, on voyait encore vers 6h30 ce matin les CRS qui vérifiaient dans les étages qu'il n'y avait plus d'étudiants dans cette tour qu'est Tolbiac. Ils sont intervenus vers 5h ce matin. Il y avait alors une cinquantaine d'étudiants dans l'amphithéâtre. Ils étaient en train de dormir. Parmi eux, cette jeune femme qui a été réveillée.
On s'est fait réveiller à 5h du matin avec les flics à l'intérieur de la PAC qui sont entrés par derrière. Je pensais que ça arriverait ce week-end, honnêtement. Avant les partiels, en tout cas. Je m'y attendais un peu, mais pas ce soir, c'est vrai.
Alors, depuis le début du mouvement, les étudiants des différentes universités restent en contact. Il y a des chaînes de mails, de textos, et c'est justement ce qui a permis à certains d'être prévenus de ce qui se passait à Tolbiac. Cet enseignant est arrivé dès qu'il a été alerté via son téléphone.
En plein milieu de la nuit, personne s'y attend vraiment. Et évidemment, tout le monde attendait cet effet de surprise de la préfecture à un moment ou à un autre. Mais répondre à des dizaines de cartes de CRS, je pense que personne n'en avait les moyens matériels.
Des CRS qui sont toujours là à l'heure qu'il est. Les étudiants, eux, qui étaient dans l'amphithéâtre sont restés dans le quartier. Ils ont prévu de se regrouper et de manifester devant la tour de Tolbiac dans la matinée.
Merci Ariane Grissel. Et selon la préfecture de police, il y a eu une interpellation pour outrage et rébellion. Tolbiac débloqué, mais de nombreux sites universitaires encore très perturbés, entre autres Jean Jaurès à Toulouse, Paul Valéry à Montpellier, Nanterre ou encore Rennes 2. À la SNCF, l'intersyndicale fait monter la pression. CGT, UNSA Sud et CFDT ont décidé hier soir de suspendre leur participation à la concertation organisée par la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Des syndicats qui dénoncent un déficit de confiance et qui veulent maintenant négocier directement avec le Premier ministre Édouard Philippe. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présente aussi aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de réforme de la justice. Une réforme très critiquée par les professionnels du droit, avocats, magistrats. La mobilisation contre le texte s'est déjà traduit par des journées mortes, une manifestation nationale le 11 avril dernier ainsi que divers mouvements qui affectent le fonctionnement des juridictions à Paris mais aussi en région. Le gouvernement réaffirme toutefois son credo, rétablir la confiance de nos concitoyens dans la justice. Deux visions radicalement opposées, Florence Turme.
Les acteurs du monde judiciaire dénoncent non seulement une concertation de façade mais surtout une privatisation de la justice. Le projet de loi prévoit par exemple une conciliation obligatoire avant de saisir le tribunal de grande instance, étape préalable qui pourrait être assurée par des services privés de résolution des litiges. Procédure dématérialisée et donc déshumanisée, dénoncent avocats et magistrats, avec selon eux un effet contre-productif, l'éloignement plutôt que le rapprochement des usagers et de la justice. Plus de 300 tribunaux d'instance vont par ailleurs être rattachés aux tribunaux de grande instance. C'est l'élément le plus contesté du projet de loi. La chancellerie y voit un moyen de rendre la justice civile plus lisible et plus efficace. Mais pour les syndicats de magistrats, cette proposition ravive le traumatisme laissé dans les juridictions par la réforme de la carte judiciaire portée 10 ans plus tôt par Rachida Dati. Et ce, même si la garde des Sceaux a encore assuré lundi sur notre antenne qu'il n'y aurait aucune fermeture de tribunaux. L'article 42 imagine également la création d'un tribunal criminel départemental à mi-chemin entre cour d'assises et tribunal correctionnel où siégeraient uniquement des magistrats professionnels et non plus des jurés populaires. Pour les crimes punis de 15 et 20 ans de réclusion criminelle, notamment les affaires de viol. Avec l'objectif affiché de réduire les délais de jugement, cela concernerait en théorie plus de la moitié des affaires actuellement jugées en assises, en théorie seulement puisque l'expérimentation portera sur 3 ans à compter du 1er janvier prochain et ne concernera que quelques départements, une dizaine tout au plus, on ignore encore lesquels.
Explication Florence Sturm et dossier spécial à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Enfin, concernant le débat sur la loi asile-immigration examiné depuis le début de semaine à l'Assemblée nationale, il devrait finalement déborder sur le week-end. Hier, les députés ont donné leur feu vert à l'article 5 du projet de loi, à savoir la réduction du délai pour déposer une demande d'asile une fois sur le territoire français. Il passe de 120 jours à 90 jours. L'ensemble de la gauche et quelques députés LaREM ont voté contre. Pour le gouvernement, il s'agit de réduire à 6 mois contre 11 actuellement le délai d'instruction recours compris. La météo, un temps toujours chaud et ensoleillé, le soleil domine sur toute la France et les températures, elles sont estivales. 15 à Brest, 20 à Strasbourg, 21 à Bordeaux, 22 à Lille, Lyon et Marseille, 23 à Paris et cet après-midi, ça s'échelonnera de 24 à 28 du nord au sud.